Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et nous voulons lui recommander ce temps. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, quelle grâce et quel privilège, Seigneur, de pouvoir t'entendre, entendre ta voix et recevoir ta parole, Seigneur. Nous prions pour que tu disposes nos cœurs à la recevoir avec humilité, Seigneur, pour qu'elle nous transforme, Seigneur, et elle produise la vie en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, en ce moment, nous sommes dans l'étude des proverbes, et comme il nous a été dit, les proverbes en eux-mêmes sont des enseignements qui sont riche de profondeur et chaque verset nécessite qu'on s'y attarde pour en tirer le maximum de ce que le Seigneur a à nous donner. Mais vous savez, Dieu est éternel, il est infini et sa parole est infinie aussi. C'est-à-dire que le même verset que tu lis 5 minutes après, tu reçois encore d'autres choses différentes en fonction de ce que le Seigneur veut nous donner. Et nous faisons une pause par rapport à l'étude des proverbes. Et aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui est important. Nous allons lire, pour commencer, Job 19. Job au chapitre 19. Job au chapitre 19. On peut commencer la lecture à partir du verset 21. Job 19, on peut commencer au verset 21. Alors, Job est dans un échange avec ses amis, ses camarades qui partent du postulat que si Job souffre ainsi, ce qu'il a péché, ce qu'il y a certainement un problème dans sa vie. Alors ce postulat, à premier abord, il n'est pas erroné parce que le péché est souvent lié, ou le malheur est souvent lié au péché, qui est lié parfois, souvent à la faute d'une personne. On se rappelle dans Jean 9, lorsque les disciples voient l'aveugle né, ils posent la question à Jésus, « Maître, mais qui a péché ?» Donc, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui fait que cet homme soit comme ça, mais ils partent directement sur la question en disant, « Est-ce lui ou ses parents ?» Mais Jésus rectifie les choses en disant, « Non, il ne s'agit pas de lui ou ses parents, mais c'est que Dieu a permis les choses ainsi pour accomplir ses objectifs, manifester sa gloire au travers de cette personne. » Et c'est ce qui arrive ici à Job, parce que Job n'a pas péché. Mais vous voyez, à cette époque-là, pour eux, le malheur de Job est nécessairement lié à une faute qu'il a commise. Puisque Dieu est juste, et Dieu qui est juste, Dieu qui est bon, ne peut permettre que le juste souffre aussi. Donc, ce qui est un problème. Mais puisque Dieu n'a pas de problème, il est irréprochable. Donc, forcément, le problème vient de l'homme, vient de Job. Voilà le postulat de ses amis et Job, lui, s'emploie à démontrer tant bien que mal que lui, il n'a rien à se reprocher. Et nous lisons à partir du verset 21. « ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. » Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. C'est très fort ce qu'il dit. Mais je sais, verset 25, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Voilà ce que Job dit. On aurait pu lire tout le chapitre 19, mais on lit cette portion-là, qui est déterminante et marquante. Job dit à ses amis, mais je suis déjà accablé, je souffre déjà. Et vous, ce que j'attends de vous en tant qu'ami, c'est de me soutenir dans cette souffrance avec des paroles réconfortantes. Mais il dit, écoutez, j'aimerais que les paroles que je dis soient marquées de sorte que les générations à venir puissent les lire aussi. Mais il dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier. Je sais, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ce que Job dit. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est Dieu est fidèle. Bien-aimé, c'est quelque chose que nous connaissons. C'est quelque chose que nous avons certainement élaboré dans notre tête. C'est quelque chose que nous avons certainement compris. Mais vous savez, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve où on a l'impression qu'on est abandonné. On a l'impression que Dieu lui-même est absent. On a l'impression que toutes les promesses de la Bible deviennent lettres mortes. Je dis bien, c'est l'impression qu'on a. Et il est important de s'attarder sur l'essentiel, sur la nature de Dieu. Vous savez, les difficultés qu'on vit en tant que chrétien doivent nous ramener à une chose. Qui est Dieu? C'est ça, bien-aimé. Tout ce que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous ramener à l'essentiel. Quelquefois, on s'éparpille. Quelquefois, on se chamaille pour un bonjour qui n'a pas été donné, pour un regard qui n'a pas été rendu réciproquement, pour quelque chose. On s'éparpille pour beaucoup de choses qui n'en valent pas la peine. Mais quelquefois, Dieu permet des situations pour se recentrer sur la nature, l'identité, sur l'essence, sur les caractéristiques de Dieu qui est tout-puissant, qui est grand, qui est juste, qui est saint, qui pourvoit nos besoins, mais qui est aussi fidèle. Qu'est-ce qui fait que nos prédécesseurs, qui tous ont vécu des situations difficiles, tous, ils ont vécu des situations difficiles. Ils ont fait face à l'adversité. Mais, vous savez, en méditant ce passage, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont pu tenir? C'est le fait de se souvenir que Dieu est fidèle. Quand on voit l'histoire de Joseph, les promesses qu'il a reçues de la part du Seigneur, la vie qu'il a vécue, vous savez, quelquefois, il y a un fossé entre ce que tu lis de la Bible, de la parole de Dieu, et parfois les promesses que tu as reçues directement du Seigneur et la réalité de la vie. Il y a parfois un fossé. Mais c'est à ce moment-là, bien-aimé, que le fossé se creuse, qu'on doit s'accrocher à l'essentiel. Et Joseph est resté fidèle à Dieu, puisqu'il savait que Dieu demeure fidèle. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que ça implique quand on dit Dieu est fidèle? Qu'est-ce que ça implique? Mais c'est important, bien-aimé, de revenir à l'essentiel. L'essentiel pour Dieu, ce n'est pas ce qui est compliqué pour les humains. Vous savez, les humains aiment rendre les choses difficiles, inaccessibles. Mais vous savez, ce qui est simple, que Dieu nous donne à comprendre, c'est ça qui est important. Vous savez, c'est comme l'eau à boire. L'eau à boire, elle est simple, même si aujourd'hui c'est la sécheresse. Mais tu ouvres le robinet, tu as de l'eau qui coule. Et l'eau qui coule du robinet, c'est ça même qui est nécessaire pour notre vie. Ce ne sont pas les sodas. On a besoin de l'eau. Pourtant, c'est quelque chose qui est accessible, mais qu'on risque de négliger. Mais c'est ça qui est important. Et Dieu, c'est la même chose. On doit se rappeler qui il est. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul a dit, « Je sais en qui j'ai cru. » Bien-aimé, c'est là, on arrive à ce point-là. Les amis de Daniel se retrouvent devant le roi de Babylone, Nabucodonosor, qui dit, « Est-ce de propos délibéré que vous choisissez de désobéir à l'ordre que j'ai donné ?» Vous savez, ces gens disent au roi, « Roi, nous n'avons pas à discuter avec toi. Nous, nous savons que nous servons le Dieu le plus grand. » C'est le seul Dieu d'ailleurs. Alors on n'a pas à débattre. Alors qu'est-ce qui fait que ces gens demeurent aussi fermes, bien-aimés? C'est cette réalité-là, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimés. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est fidèle? Premier point, c'est qu'il ne change pas. Nous pouvons lire Jacques 1, et je rappelle, hein, s'il y a des interventions, on peut se manifester. Nous lisons ce que notre bien-aimé Jacques nous dit. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre. Bien-aimé, c'est un passage que j'aime beaucoup. On dit toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On ne dit même pas qu'il n'y a pas de variation, on dit ombre. Vous savez, l'ombre, c'est ce qui reflète la personne sans être la personne. Donc la lumière qui donne en fonction de la lumière, on peut voir une silhouette, et cette silhouette-là peut nous dire, ah, il y a tel qui arrive. Et là, Jacques nous dit qu'en Dieu, il n'y a même pas une once, une ombre de variation. Il demeure constant. C'est ça que ça veut dire, bien-aimé. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma force. C'est ce que ce chant l'a dit. Dieu est fidèle, il ne change pas. La conjoncture, les réalités, ben, ne le changent pas. Il demeure tel qu'il est. C'est ça, bien-aimé, que nous devons réaliser. Quand on parle de la fidélité de Dieu, c'est ça. C'est qu'il reste constant dans son être, constant dans son amour, constant dans sa grâce, comme nous venons de lire, constant dans ses bienfaits, constant dans sa miséricorde, même au milieu de l'adversité, il reste constant. Il ne change pas. Il est Dieu. C'est ça, bien-aimé. Réalisez que quand on évoque la fidélité de Dieu, vous savez, dans Jérémie 17, qu'est-ce qu'il nous est dit? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais pourquoi malheur à l'homme qui se confie dans l'homme? Puisque l'homme change. L'homme peut avoir une position aujourd'hui et demain tu le revois, il a changé de position. En fonction des réalités de la vie, il peut changer. Alors Dieu dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et bien sûr, l'homme c'est l'autre, l'autrui, mais c'est aussi soi-même. Tu peux être de bonne disposition le matin, mais le soir triste, puisque tu as une mauvaise nouvelle. Mais comprenons que Dieu, lui, il n'est pas touché par cet état d'humeur. Dieu n'est pas touché par ça. C'est ça, bien-aimé, que nous devons réaliser. Dieu est fidèle, ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est que il n'oublie pas. Il n'oublie jamais. Il n'oublie pas sa parole. Il n'oublie pas ses promesses. Il n'oublie pas son engagement. Nous lisons Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. On va lire seulement les deux premiers versets. Esther 6, verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Voilà, on peut s'arrêter là. Ou on peut lire le verset 3 aussi, qui est important. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?»« Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. On peut s'arrêter là, pour ne pas être trop long. On va expliquer. Alors, il y a eu un complot qui avait été préparé par les deux intendants du roi, dont on vient de lire les noms, Bigthan et Terek, qui étaient des gardes du seuil, des eunuques du roi. Alors, ces deux hommes avaient fomenté un complot pour tuer le roi. Et Mardoché a révélé ce complot-là. Et il ne s'est rien passé. Et on nous dit là au verset 1er que une nuit comme ça, le roi a du mal à dormir. Alors, il demande le livre des chroniques. On fait parvenir ce livre des chroniques et le roi lit cela, il se rend compte que finalement, Mardoché a été brave. Mardoché a été intègre pour dénoncer ce complot qui était ligué contre lui. Alors il pose la question, il dit, mais qu'est-ce que Mardoché a reçu comme récompense? Les gens lui disent, mais non, il n'a rien eu. Le roi lui dit, écoutez, maintenant, il va prendre la deuxième place du royaume. Bien-aimé, je prends cet exemple-là pour nous dire quoi. Vous savez, je me suis mis en méditant à la place de Mardoché, en se disant, mais vous savez, il arrive quelquefois qu'on fasse du bien sans voir le retour. Qu'on fasse du bien, parfois même, en recevant le retour négatif. Mais combien de fois les chrétiens se plaignent pour ça, bien-aimé? Combien gardent des choses dans le cœur, amertume? Combien? Mais quand tu sais que Dieu est fidèle, c'est juste une question de temps. Puisque Dieu n'oublie pas. Puisque Dieu se souviendra. Et là, vous voyez comment Dieu fait les choses. Hein? Il empêche le roi de dormir. Lui qui avait certainement une suite royale, un lit, vous savez, king size bedroom, comme on dit, un lit, je ne sais pas de quelle mesure. Mais malgré tout ça, il n'arrive pas à dormir. Vous voyez, c'est ce que Jacques nous dit. Hein? Jacques 1, 20, 21, il nous dit que le cœur du roi est comme un fleuve entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Il en fait ce qu'il veut. Il peut dire, allez, toi, tu ne dors pas. Il peut le dire, puisqu'il est Dieu. Et là, le roi est dérangé. Et il se rend compte que Mardoché a été oublié. Pourtant, c'est lui qui devait prendre des mesures pour récompenser une telle personne. Mais il a oublié. Mais Dieu finit par rappeler ce que Mardoché a fait. Bien-aimé, en lisant ça, je me suis dit, oh là là, bien-aimé, combien tu es fidèle. Le conseil aujourd'hui, c'est de nous dire, bien-aimé, n'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas. Vous savez, souvent, quand on fait le bien, on nous attendons à ce que les autres nous rendent le bien. Souvent, Dieu, je dis bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, Dieu va bloquer le processus du retour pour purifier nos cœurs et pour qu'on apprenne à donner sans rien attendre. C'est ça. Comme Dieu, on nous dit qu'il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Et il n'a pas exigé aucune garantie, comme nous chantons dans le chant. Il n'a pas exigé de garantie. Lui, il a donné par amour. Et Dieu veut nous amener aussi à cela, bien-aimé. Combien compte ? Ah, moi, j'ai fait tel sacrifice. Ah, moi, j'ai donné ça. Moi, j'ai... Oh ! Vous savez, Jésus dit des pharisiens, il dit pour les bonnes œuvres qu'ils ont faites devant les humains, ben, ils ont reçu la récompense parce qu'ils s'en vantent. Maintenant, les humains savent que, ah, ben, tiens, tel, il a fait ça. Tiens, tel, il a fait tel don. Tiens, tel, il a donné de sa poche. Tiens, tel, il a fait ci. Et maintenant, la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'ils vont te glorifier. Ah, félicitations. Hein. Oh là là. En tout cas, moi, je ne pourrais pas me dévouer comme ça pour le Seigneur. Mais oui, mais c'est juste apparence. Parce que pour Dieu, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Mais celui qui sait que Dieu est fidèle, il sait que Dieu se souviendra. Lisons ce que Dieu dit de lui-même. Hein. Nous lisons Ésaïe 49. Ésaïe 49, voyons ce que Dieu dit de lui-même. Ésaïe 49. On peut commencer au verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, c'est ce qui nous arrive beaucoup. On n'a pas lu le début, où on parle du rétablissement d'Israël à cause du péché. Dieu a livré Israël en quelque sorte, alors les enfants d'Israël se retrouve à souffrir et Dieu fait des promesses. Puisque le peuple se dit, mais Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés. Et regardez maintenant ce que le Seigneur a dit au verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Alors il rajoute, quand elle l'oublierait, même s'il arrive que cette femme oublie son enfant, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voilà ce que le Seigneur dit, bien-aimé. Dieu est fidèle, il n'oublie pas. Il dit que si, déjà, une femme normalement constituée ne peut pas oublier, abandonner son enfant. Mais Dieu nous dit que l'amour, l'affection qu'il a pour nous, est plus fort que l'amour qu'une femme peut avoir pour son enfant. Bien-aimé, c'est difficile à concevoir. Hein. Puisque humainement, l'amour qu'une mère a pour son enfant, c'est ce qu'on appelle même l'amour agapé, ceux qui font les enseignements de base. Hein. C'est un amour qu'on dit désintéressé. C'est-à-dire que c'est le maximum, parce que les autres amours sont des amours qui sont liés à un intérêt, parce qu'on s'attire, parce que il y a un profit derrière, mais l'amour d'une mère pour un fils, pour un enfant ou une fille, c'est un amour désintéressé qui fait qu'une maman peut se priver de dormir pour s'occuper de son enfant. Et elle le fait naturellement, sans demander de reste. Naturellement, elle le fait. Alors, vous vous rendez compte que Dieu lui dit, mais cet amour-là, il a des limites. Il dit, moi, l'amour que moi je porte, il est au-dessus de cet amour-là, bien-aimé. Il dit, même si elle oubliait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Bien-aimé, c'est ça la fidélité de Dieu. Ce souvenir que Dieu n'oublie pas. Comme on a dit en introduction, vous savez, quand on semble tout perdre, rien contrôler, accrochons-nous à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Qui est-il ? Pour moi. Qu'est-ce qui me reste ? Ben, c'est la fidélité de Dieu. C'est qu'il se souviendra de moi. Dieu est fidèle. Troisième point, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il finira par se manifester. Il finira par se manifester. Puisqu'il est fidèle, lisons Lamentations. Je rappelle, hein, s'il y a des interventions ou des questions, on peut, des commentaires. Nous lisons Lamentations 3. Lamentations 3. À partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, bien-aimé. C'est ça, la fidélité de Dieu. C'est que Dieu finira par se manifester. Mais il est où le problème? Alors le problème, c'est que on se demande comment. Mais ça, ce n'est pas notre problème, bien-aimé. Puisqu'il est fidèle, il finira par se manifester. C'est ça la réalité. Mais notre problème à nous, c'est quand tu es en face de la situation. Comme il dit, il décrit, hein, quand je pense à ma détresse. Bien-aimé, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu veux repasser dans ton cœur? Les paroles blessantes que tu as entendues, le mépris dont tu as fait l'objet, ou est-ce que tu veux repasser dans ton cœur le fait que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent? Qu'est-ce que tu choisis, toi, de repasser dans ton cœur? Qu'est-ce que tu choisis? Alors, Jérémie nous dit ici, on n'a pas lu les versets d'au-dessus, hein, il dresse un tableau qui est vraiment sombre. Mais il dit, malgré la réalité qui est sombre, moi, ce que je choisis dans mon cœur, c'est de me rappeler que Dieu est bon. Que son réservoir de bonté est illimité. Que ses bontés se renouvellent chaque matin. Vous savez, ce qui a inspiré un peu notre partage aujourd'hui, c'est une histoire que certains ont déjà peut-être lu ou entendu. Il s'agit d'un homme, un médecin, chirurgien, cancérologue en même temps, mais d'une grande renommée. Et très fort dans son domaine, c'est une histoire vraie, très très fort en matière de tout ce qui touche la cancérologie. Que ça soit adulte, enfant, très fort sur cette question-là. Alors, il reçoit, il a eu plusieurs prix, bien évidemment, par rapport à toutes les recherches qu'il a fait, tout le travail de prestige qu'il a fait. Alors, il reçoit une invitation pour se rendre à une conférence, un sommet, où il va recevoir l'ultime prix de sa carrière. Vous savez, c'est comme les joueurs ou les sportifs, hein. Tant qu'il a 10 trophées du même tournoi, c'est pas suffisant. Pour lui, il faut qu'il ait même 5 trophées de chaque tournoi, puisqu'il y a un sentiment toujours de vouloir plus. Alors, il prend son billet d'avion, parce que c'est la cérémonie où il va avoir le prix qui va couronner sa carrière. Il prend le billet d'avion, il prend l'avion, il est attendu, bien évidemment, à cette conférence. Et au bout de quelques heures de vol, il y a un problème technique. Le pilote dit qu'il doit atterrir d'urgence au premier aéroport. Donc, ça veut dire que le monsieur ne va pas atteindre sa destination. Et là, il est dans tous ses états. Vous savez, angoissé, nerveux. Et ils voient que ça traîne, ils attendent un avion de remplacement pour continuer le trajet, et ça traîne. Alors il va se renseigner auprès du service de la compagnie aérienne, une bonne compagnie qu'il aime en plus. Hein. Ils lui disent, non, là on a un vrai souci technique, donc il y en a pour 10 heures d'attente. Alors là, il se dit, ah là, 10 heures d'attente, je vais louper mon sommet. Alors il se dit, bon, je me fais violence, je prends une voiture de location. S'il faut que je roule, je vais rouler, je vais partir. Donc il prend une voiture de location, il roule. Il roule intempérie. Il pleut, des orages, il se retrouve tout seul sur la route. Mais très dangereux. Et en plus, la fatigue avec. Vous savez, il y a parfois des tempêtes qui font que même quand tu mets tes pleins phares, tu ne vois même pas à un mètre, tu ne vois rien du tout. En plus, il y a le vent, c'est tellement désagréable. Plus la fatigue avec. Donc il essaie de forcer en se disant, non, il faut que j'arrive quand même. Il force, rien à faire. Et puis il a faim. Donc il se dit, bon, je veux m'arrêter. Peut-être que ça va être plus sage que je m'arrête, que je me fasse héberger chez quelqu'un. Et puis on verra si on peut me trouver une solution. Et donc il va, il frappe chez quelqu'un. Il y a une dame qui sort. Et là, il pleut, hein, à verse. Il explique à la dame, voilà, est-ce que je ne suis pas dans mon pays, je me retrouve, il y a une grosse tempête, et je suis attendu pour une conférence, et j'aimerais bien appeler, s'il vous plaît, pour prévenir s'il y a moyen de décaler ce rendez-vous. La femme lui dit, écoutez, ici, chez moi, je n'ai pas de téléphone. Bon. Alors, vous voyez comment les déconvenus sont déconvenus, hein. Tous les projets, c'est ce que la Bible dit, les projets que fonde le cœur de l'homme dépendent de lui, mais c'est qui dirige, c'est Dieu. La femme nous dit, écoutez, je n'ai pas de téléphone chez moi. Oh là 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 là. Mais par contre, je peux vous accueillir et vous offrir un thé et puis vous donner à manger si vous voulez. Donc il entre. La femme lui donne à manger. Lui donne un petit thé pour se réchauffer. Et la femme est assise à côté d'un berceau. Donc elle a un bébé. Et la femme invite le monsieur en disant, s'il vous plaît monsieur, moi je veux prier. Et est-ce que ça vous intéresse de vous joindre à moi pour qu'on prie ensemble? Je veux prier pour mon bébé et avec mon bébé. Oh non, moi je crois pas en la prière, moi je crois au travail. Sous-entendu, ceux qui prient, c'est ceux qui attendent que les choses tombent du ciel. Moi je crois en la valeur... labeur. La femme lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc la femme se met à prier. Et pendant ce temps-là, lui, il est dans le salon, il voit la femme prier. Alors il commence à se poser des questions, mais qu'est-ce qu'elle demande à Dieu? Pourquoi elle prie? Et en plus, elle prie. C'est comme si elle s'adresse à son enfant en même temps, mais elle prie. Qu'est-ce qu'elle demande à Dieu par rapport à son enfant? Qu'est-ce qui se passe? Donc il est intrigué par rapport à tout ça. Et donc, là, lorsque la femme finit de prier, il s'approche, il demande à la femme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous priez comme ça? Est-ce que votre enfant a un problème? La femme lui dit, écoutez, monsieur, mon bébé a un cancer. Et on m'a recommandé d'aller voir un médecin qui est de grande renommée, John Harrison, qui est très connu. Mais le problème, c'est que ce médecin-là, il est tellement grand qu'il est inaccessible. Et puis les honoraires, c'est même pas la peine. La femme lui dit, vous voyez, moi, j'ai pas de moyens, j'ai même pas un téléphone. Mais on m'a parlé d'un monsieur qui est un grand médecin, et le médecin se met à pleurer. Alors la femme ne comprend pas. Mais la femme dit au médecin quand même, à cet homme-là, elle dit, mais moi, j'ai prié Dieu, mais je sais que Dieu finira par se manifester, je ne sais pas comment. Et c'est là que l'homme se met à pleurer. Parce que la femme cite son nom. Mais le monsieur n'a pas dit à la femme que c'est lui. Il se met à pleurer. La femme est intriguée, elle dit, mais pourquoi il pleure? Le monsieur s'arrête de pleurer, il dit, écoutez madame, je comprends que tout ce que j'ai eu comme désagrément pour arriver jusque dans cette minable maison, c'est Dieu qui a conduit ça. Il dit, c'est moi, John Harrison, dont vous parlez. Bien-aimés, vous savez, cette histoire-là, ça me fait penser à la fidélité de Dieu, bien-aimés. Il finira par se manifester. La question, c'est quand? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Mais il est Dieu. Qui aurait pu penser que ce monsieur-là, et vous savez, c'est lui qui raconte l'histoire, hein, dit que Dieu a permis que ce monsieur-là sorte de sa route. Et il dit, au sens propre et au sens figuré, au sens propre parce qu'il avait une trajectoire, il allait à la conférence, mais au sens figuré aussi parce qu'il fait une pause finalement. Vous savez, il est dans le train quotidien de ses conférences, de son boulot. Il n'a pas le temps de faire une pause pour aller voir quelqu'un qui... Mais vous voyez comment Dieu a imposé les choses pour qu'il aille jusque dans la maison de cette femme-là. Lui qui était tellement sûr de lui, contre Dieu. Mais vous savez, Dieu est grand. Et c'est ça, bien-aimé. Dieu finit par se manifester dans sa fidélité. On ne sait pas comment. Tu as prié, mais continue. Vous savez, c'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Et vous savez, il y a un commentateur qui dit l'intensité du verbe, des verbes que Jésus emploie, monte. Il dit demander. Après, il dit quoi? Chercher. Demander, il y a la personne qui est là, tu viens, tu fais ta requête. Mais quand tu cherches, c'est-à-dire que l'effort est différent maintenant. Mais il va encore plus loin pour dire frappe maintenant. Une fois que tu as cherché, frappe. Bien-aimé, c'est ça l'attitude que nous devons avoir quand on pense à la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Alors l'histoire, on ne sait pas la suite. Est-ce que John Harrison s'est converti? Mais toujours est-il que l'homme qui était fort, costaud, a compris que Dieu a pu, en quelques instants, anéantir ses projets. Pour lui, pour un de ses enfants. Bien-aimé, c'est ça la fidélité de Dieu, bien-aimé. Dieu est fidèle. Il finira par se manifester. Alors nous continuons à prier. Ne cherchons pas de bouc émissaire. Ne cherchons pas l'humain qui est... Vous savez, quand c'est comme ça, tu pries, tu ne vois pas, tu es irritable, tu es tout le temps à murmurer, à critiquer. Non, ne t'en prends pas aux humains. Vous savez, cette femme était isolée avec son enfant. Mais Dieu a fait que l'homme vienne lui-même. Il frappe, il lui demande de l'aide. Vous voyez comment les choses sont inversées. Hein? Normalement, c'est la femme qui veut faire le déplacement pour venir frapper, demander de l'aide. Mais là, c'est l'homme lui-même qui vient, oui, intervenir.
Question Internet. Faisons-nous automatiquement ce qui est dit dans Éphésiens 2, 10. Donc je vais lire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc je reprends la question. Faisons-nous automatiquement ce que dit Éphésiens 2, 10 dès qu'on est converti, dès qu'on se convertit.
Alors, dès qu'on est converti, on reçoit la nature de Dieu. Et cette nature-là s'exprime. Maintenant, c'est à nous de faire le choix de mourir à nous-mêmes pour que ça s'exprime totalement. C'est ça. Donc, quand on se convertit, on reçoit l'Esprit de Dieu. Donc, automatiquement, on est en mesure de le faire. Maintenant, c'est un choix. Il faut accepter cela. Mais automatiquement, dès qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit aussi sa nature. Et à partir de ce moment-là, Dieu nous donne la capacité d'agir comme il attend. Voilà. Maintenant, c'est une question de choix. Et c'est ça même le véritable combat de la chair de l'homme. C'est qu'il y a toujours le vieil homme qui veut revendiquer les choses, mais on doit faire comme l'apôtre Paul dit, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est notre combat en permanence, mais en réalité, Dieu, du côté de Dieu, tout a été fait. Il nous donne sa nature, il nous donne son esprit, de sorte qu'on peut maintenant manifester cela. Et notre prière à nous, c'est dire, Seigneur, aide-moi à pratiquer cela. Souvent, on prie, comme on disait dimanche à Paris, hein, Seigneur, donne-moi la sagesse. Mais vous savez, Dieu ne va pas toujours descendre pour dire, ah, maintenant, tu as beaucoup de sagesse. Maintenant, Seigneur, donne-moi la sagesse. 5 minutes après, il permet une situation où tu vas manifester maintenant la sagesse. Parce que tu as prié pour la sagesse. C'est comme ça. L'exemple, c'est lequel ? Salomon. Il prie pour que Dieu lui donne la sagesse. Quelques temps après, qu'est-ce qui se passe ? Problème, deux femmes se présentent. Et souvent, on est contradictoire. Seigneur, donne-moi l'amour, mais Dieu va te mettre une situation où tu dois manifester l'amour. C'est comme ça que ça grandit. Mais la situation vient. Oh, non, moi, je ne suis pas prêt. Mais tu as prié pour que Dieu te donne l'amour. Manifeste maintenant l'amour. C'est ça. Ça. Au lieu de manifester l'amour, tu critiques. Mais en même temps, tu dis, Seigneur, ah, pardonne-moi, donne-moi l'amour. Mais oui, mais tu demandes l'amour, Dieu va te mettre devant une situation. C'est à toi de te saisir de ça pour dire, bon, là, je dois passer par là, mais le frère habite à l'opposé, 40 km. Là, le prix du carburant, mais je ne peux pas le laisser partir comme ça. Bon, je vais faire un détour. Voilà, c'est ça. Tu as prié pour l'amour, c'est ça. Et nous sommes contradictoires en tant que humain, on demande des choses à Dieu et on doit comprendre aujourd'hui quand on demande à Dieu, Dieu nous donne un test directement, il nous donne un examen et pour lui, l'examen c'est comme s'il t'a dit, bon je t'ai donné maintenant, pratique. C'est ça. Ok, donc on continue, voilà comment Dieu se manifeste dans la vie de cette femme au travers de cet homme qui vient chez elle. Bien-aimé, Dieu finira par se manifester. Il est fidèle. Et nous sommes d'accord, bien-aimés, que il y a la question du temps. Quand ça traîne, quand ça tarde, quand on ne voit pas la chose, quelquefois on a l'impression de perdre. Mais vous savez, je me suis posé la question, mais pourquoi quelquefois, on prie pour des choses qui traînent. Et la pensée qui me venait, c'est que nous sommes en construction, bien-aimés. Dieu nous construit. Dieu nous travaille. Dieu fait un travail en profondeur. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de Joseph qui avait eu des promesses. Mais entre les promesses et la réalisation, il s'est passé des choses. Hein. Accusé injustement de viol même. Mais tout ça était le travail. Vous savez, travail de potier que Dieu fait. Comme il dit dans Jérémie 18, hein, quand ça ne va pas, il casse. Il recommence. Quand ça ne va pas, il casse. Mais pendant ce temps-là, on se dit, mais Dieu est où, mes bien-aimés ? Dieu est là, il travaille. Lisons Ecclésiaste 3, 11. Lisons ce que l'Ecclésiaste nous dit. Bien-aimés, ce sont des passages à connaître, à garder. Ecclésiaste 3, 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Il, Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps, bien-aimé. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Donc, quand Dieu prend le temps, c'est parce que il vise à construire quelque chose de solide, bien-aimé. Regardez l'histoire de David. David avait été oint roi par Samuel. Oint roi. Mais regardez comment il a erré comme un animal. Est-ce que ça veut dire que Dieu avait oublié ? Non, Dieu n'a pas oublié, mais Dieu l'a fait passer par là pour le construire de sorte que quand tu as saisi la leçon, tu sais maintenant que la fidélité de Dieu est une réalité. J'ai dit en introduction, comment ça se fait que ces gens-là ont pu tenir ferme ? C'est parce qu'ils se sont accrochés sur le fait que Dieu est fidèle. Vous savez, Joseph a dit à ses frères, hein, « Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. » Job, dont on a lu le passage en introduction, lui dit que j'avais entendu parler de Dieu. Maintenant, j'expérimente Dieu. Nous sommes en construction. Des fois, les choses traînent. Puisque Dieu sait qu'il ne peut pas nous les donner trop tôt. Parce que ça peut nous détruire. Alors, il travaille nos cœurs. Il travaille les dispositions. Il travaille notre nature. Tu veux le mariage. Mais tu ne supportes pas que quelqu'un vienne chez toi. Tu ne supportes pas que la tasse soit posée de cette façon-là. Tu ne supportes pas que la fenêtre soit... Mais Dieu va te travailler avant. Et même après encore. Mais il va commencer au préalable à travailler parce qu'il sait que s'il te donne ça, mais ça sera la débandade. Alors Dieu travaille en amont. Dieu travaille. Parfois ça traîne. C'est long. Et c'est là que le diable va se présenter pour dire, ben regarde, il y a un raccourci. Mais le Seigneur nous dit qu'il donne toutes choses bonnes en son temps. Le temps, c'est la question de Dieu, bien-aimé. Ne cherchons pas à maîtriser le temps. Vous savez, la Bible dit quoi? Joël 2. Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'aime beaucoup ce verset-là. C'est-à-dire que Dieu, non seulement il maîtrise le temps, mais il maîtrise les événements. Les circonstances, ça veut dire qu'il maîtrise les événements. Vous voyez l'histoire qu'on a racontée de John Harrison, ce grand médecin, comment se retrouver dans une ville perdue. Lui qui est un grand médecin. Mais parce que Dieu a travaillé le temps, la panne technique de l'avion, le véhicule, la pluie. Il a travaillé toutes ces choses-là pour son objectif à lui bien-aimé. C'est ça, Dieu. Il est maître de temps et des circonstances. Vous savez, il y a un chant qui dit, même 4 jours plus tard, pour Dieu, il est toujours à l'heure. Cette chanson parle de Lazare, la mort de Lazare, les sœurs de Lazare disent, mais Seigneur, tu aurais été là, mais les choses auraient été différentes. Mais Jésus dit, oh là 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 là. Mais ne vous ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Jean 11, 25, oui, mais nous savons ça, Seigneur, mais nous savons, bien sûr, nous savons. Jean 11, 40, il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh oui, mais nous savons toutes ces choses. Mais bien-aimés, voyez comment nous sommes les humains, les chrétiens. On sait ces choses-là. Mais dans la tête, on se dit, bon, c'est perdu. C'est loupé. Mais même si c'est perdu, l'histoire de Lazare nous montre quoi? Que Jésus peut arrêter le temps. Lazare qui était mort, il le ramène à la vie. Bien-aimés, c'est ça. Alors ayons confiance dans le Seigneur. Alors une fois qu'on a décrit un petit peu en disant que Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il ne change pas. Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il n'oublie pas. Il est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il finira par se manifester, quel que soit le temps que ça prend. Alors la question c'est, que faire alors? Que faire? C'est continuer à croire. Vous savez, la femme dont je parle là, dans l'histoire là, elle dit une chose à ce médecin-là, elle dit, je refuse que la peur prenne le dessus sur ma foi. Je refuse que l'inquiétude de me dire, mais comment je vais voir ce médecin-là? Comment je vais faire pour commencer à... Je n'ai même pas d'argent. Mais comment? Elle dit, non, moi je sais que de toutes les façons j'ai prié, Dieu finira par se manifester. Elle dit au monsieur, il ne m'a pas encore répondu, or le type est assis là. Donc lui il sait que Dieu a répondu. Bien-aimé, c'est ça, Dieu. Alors, que faire? Continuer à avoir confiance. Vous voyez tous les textes qu'on a lus, Jérémie, tous les textes qu'on a lus. Job. C'est continuer à avoir confiance en la fidélité de Dieu, bien-aimé. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir, pour revenir sur sa décision. Non, il est derrière sa parole pour l'accomplir, puisqu'il est Dieu. C'est ça, bien-aimé. On peut s'appuyer, s'accrocher là-dessus. Tu diras, oui, mais tu pries, regarde, tu es malade. Oui, mais tu pries, mais regarde, les choses ne changent pas. Oui, mais tu pries. Mais bien aimé, nous gardons foi, espérance. Que même si les choses finissent ici-bas, les choses ne sont pas finies. Puisque l'histoire continue avec Dieu. Bien aimé, c'est ça la fidélité de Dieu. Ne lions pas la fidélité de Dieu à la terre. Puisqu'on sera malheureux. Puisque le diable viendra toujours nous opposer aux choses de la terre pour dire, regarde, tu es chrétien, mais tu as 35 ans. Tu n'as pas de boulot. Regarde, tu es chrétien, tu as le diplôme, tu as un diplôme. Tu as 40 ans, tu n'as pas de situation. Regarde, tu es chrétien, tu as ceci, mais tu n'as pas ça. Et bien aimé, c'est ça qui perturbe. Et c'est ce que Satan a voulu faire aussi avec Jésus. En disant, écoute, si tu es le fils de Dieu, comme tu le dis, bah, allez, prouve-moi maintenant. Non. La fidélité de Dieu n'est pas liée aux choses matérielles, bien aimé. La fidélité de Dieu est liée à sa nature. Il ne peut pas se renier. Il dit, même si une femme oublie son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est ça, bien aimé. La bonté de Dieu. Que faire, bien-aimé, on a dit, c'est garder foi, c'est continuer à prier. C'est croire que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Que faire? C'est patienter, c'est ce que Jérémie nous dit dans Lamentations. Il dit, voilà, on n'a pas lu, hein, mais il dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et le psalmiste au psaume 130 nous dit quoi? Que j'attends le matin comme le garde. Vous savez, lorsque le garde a fait sa nuit, il est certain que la relève va arriver. C'est la délivrance pour lui parce qu'il va aller dormir. Ça ne se discute pas. Il sait que c'est une question d'heure. À 6h30, quand il voit le collègue, ah, lui, il se lève, il donne rapidement les consignes. Il sait que là, je suis libéré. C'est ça, bien aimé. Et vous voyez, cette certitude-là, c'est ce que Dieu veut qu'on puisse avoir aussi. Alors, patientons. Apprenons à patienter, bien aimé. Apprenons à attendre. En lisant la parole de Dieu, en lisant les promesses, pendant que tu lis, le diable va te dire, mais tu lis encore, mais rien ne se passe. Mais oui, mais je continue à lire. Psaume 33 nous dit qu'il dit une chose, et la chose arrive, bien aimé. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Psaume 33:9 pour ceux qui veulent écrire. Il dit une chose. C'est ce que le centenaire romain a compris. Hein. Il dit, Seigneur, il n'y a pas besoin que tu viennes chez moi. Pourtant, le centenaire romain, on ne lui a pas enseigné toutes ces choses-là. Il n'a pas eu tous les enseignements. Il dit, non, il n'y a pas besoin que tu viennes. Il suffit que de là où tu es, tu parles. Et c'est ce que le psaume 33 nous dit. Que Dieu parle et la chose arrive. C'est tout. Puisqu'il est Dieu. C'est ça, bien-aimé. Que faire? On a dit, continue à prier avec foi. Savoir patienter. En lisant la parole de Dieu, en adorant le Seigneur, en le célébrant, que faire, bien-aimé, c'est veiller à notre cœur. Avec humilité, refuser que l'amertume, vous voyez ce que Jérémie dit, hein? Quand je pense à ma détresse, quand je pense à la souffrance, ça me détruit au fond de moi. Mais il dit non, moi je veux repasser dans mon cœur. Le fait que Dieu est fidèle, que ses bontés, chaque jour. Vous savez, la fidélité de Dieu, elle se manifeste tous les jours. Le fait que tu aies le souffle de vie, c'est la fidélité de Dieu. Le fait que tu puisses réfléchir, penser par toi-même, c'est Dieu qui fait grâce, puisqu'il est fidèle. Combien avec ses facultés, ont même eu des diplômes pour ça. Mais aujourd'hui, sont démunis de tout moyen. Parfois, ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Ils ne savent pas à quoi sert une cuillère, par exemple. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Tu lui montres une cuillère, il ne sait pas. Ou alors, il sait, mais entre le fait de prendre la cuillère et de le ramener à la bouche, c'est tout un combat. Ça peut durer 2 minutes. Mais vous voyez, ce sont des choses qui paraissent évidentes. Prendre une cuillère, même les yeux fermés, tu mets dans la bouche. Mais il y en a à cause de la maladie. Prendre la cuillère, il va la mettre à côté, à côté, à côté, à côté. Il faut l'aider. Pourtant, cette personne-là était quelqu'un. Et lorsqu'on pense à tout ça, bien-aimé, revenons au fait que nos cœurs soient comme Jérémie en disant « Non, moi je choisis de repasser dans mon cœur que Dieu est bon. Ce n'est pas parce que je manque ceci, ce n'est pas parce que je manque cela que Dieu a changé. » Vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Hein. Ce n'est pas à cause de l'infidélité de quelques-uns que Dieu change. Non, Dieu lui demeure fidèle. Puisque c'est son essence, c'est sa nature. C'est ça, bien-aimé. Veillons sur nos cœurs. Lorsque les mauvaises pensées naissent en nous, refusons cela. Refusons cela. Demandons la prière, le soutien du Seigneur. N'ayons pas honte, ça demande l'humilité. Non, là, ça ne va pas. C'est ça, bien-aimé. On va finir avec la...
Question Internet. Pendant les épreuves, il arrive que les païens, donc les non-chrétiens, se moquent des chrétiens et disent même parfois que si venir à Dieu signifie souffrir, à quoi bon? Alors comment tenir et quelles paroles dire à ces païens?
Comment tenir? C'est déjà, on n'a pas à tenir d'une façon humaine, dans le sens où on va chercher à répondre. Non, vous savez, comment tenir? C'est en citant la parole. C'est ça, Luc 4, Matthieu 4, Jésus, avec Satan qui vient pour le titiller, le chercher, Jésus répond par « Il est écrit ». Voilà. Vous savez, il y a des gens avec qui on discute qui sont de mauvaise foi. Et ils vont justement dire « Ah bah ouais, médecin, soigne-toi toi-même. Toi, tu es malade. Et maintenant, tu es chrétien pourtant. Bah, prie ton Dieu. » Et vous savez, tu entends ça, bah, ça te fait mal au cœur. Tu dis limite, mais Dieu, mais pourquoi tu permets, mais Dieu, mais vous savez, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Alors comment réagir? C'est répondre par la parole, c'est tout. Ça, c'est la première chose, c'est répondre par ce que dit la Bible. Voilà, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors je crois. Tu es dans l'adversité, que dire? C'est répondre par la parole. Nous lisons ce que dit hein, Jérémie. Hein. Répondre que ça dure un temps. Comme on a dit tout à l'heure, nous lisons verset 31, Lamentations 3. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, verset 32, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils de l'homme. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine face à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies, et les sondons et retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière et y continue. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples, un peu comme ce que la personne dit, hein. On vient, on te dit, bah voilà. Où est Dieu? Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Bien-aimés, je veux faire une parenthèse pour dire, vous savez, nous ne sommes pas les premiers. Il y a des gens qui ont vécu les choses avant nous. Il y a des gens qui ont vécu les moqueries avant nous. Il y a Anne, dont on s'est moqué, Elkana s'est moqué d'elle, elle a mortifié. Et c'est ce qu'il dit, verset 47, notre partage a été la terreur et la fosse. Voilà ce qu'il dit, et le ravage et la ruine des torrents. Il continue. Mais la fin, c'est que Dieu... Finalement, quand on revient à lui, quand on est humble pour dire, bon, ce qui m'arrive là, Dieu l'a permis parce qu'il a des objectifs, puisqu'il veut m'enseigner des choses, puisqu'il veut manifester sa gloire, alors ça suffit comme réponse, bien-aimé. Ne cherchons pas, puisque quand on nous cherche comme ça, on veut que Dieu fasse un miracle pour dire, voilà maintenant, ouvre encore ta bouche. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, quand il agit, c'est pour sa gloire. Et surtout, c'est pour que les gens qui voient cela reconnaissent que c'est Dieu et qu'ils se convertissent. Bien-aimés, on a synthétisé beaucoup de choses qu'il y avait à dire sur la fidélité de Dieu, mais nous sommes conscients que Dieu est tout-puissant, il est limité. Et gardons, bien-aimés, le fait que Dieu est fidèle, quoi qu'il arrive, quelle que soit la réalité. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te louons pour ta grâce et ton amour, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci de nous avoir rappelé encore aujourd'hui que tu demeures fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Quelle joie de savoir cela, que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, Joseph, à un moment donné, a demandé de l'aide, mais il a été oublié. Mais Seigneur, toi, tu as permis des circonstances pour que le roi fasse venir Joseph de la prison où il se trouvait, Seigneur. Seigneur, tu ne nous oublies pas. L'histoire de cette femme avec ce grand médecin nous montre combien, Seigneur, comme il est écrit, que tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes voix ne sont pas nos voix. Tu nous surprends, Seigneur, dans ta fidélité. Seigneur, aide-nous à croire, à avoir foi, à persévérer dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à, Seigneur, nous humilier devant toi. Purifie nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.